Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens ?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaire qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
Ces informations ont tourné sur les réseaux sociaux. Le nom, la date du vaccin du président et son QR code, qui est resté actif plusieurs heures. Comment ces données privées se sont-elles retrouvées en ligne ? Selon l'Élysée, il ne s'agirait pas d'une défaillance de sécurité, mais d'une fuite malveillante.
Il s'agit d'une faute déontologique de la part de professionnels de santé qui peuvent avoir accès au dossier vaccinal du président.
Salut Juliana, salut Clément. Vous savez pas ce que vous avez manqué du JT ? Le pass sanitaire d'Emmanuel Macron a fuité.
Oui, j'ai vu, c'est ouf. Ça veut dire que si le pass sanitaire du président peut fuiter, mon QR code le peut aussi, j'imagine, vu qu'il est sur mon téléphone.
Moi, de toute façon, je l'ai en version papier, donc ça me pose pas tellement problème.
Ouais, mais du coup, finalement, comment on a accès au pass sanitaire et qui y a accès ?
Quand je suis allé me faire vacciner, j'ai donné ma carte vitale au secrétaire qui a rentré des informations dans son ordi. Puis le médecin m'a posé des questions, il a fait la même chose. Et du coup, après, ils ont imprimé un certificat de vaccination avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance et d'autres infos médicales sur la dose du vaccin injecté.
Et un QR code, bien sûr, avec toutes ces infos.
Du coup, j'imagine que mes données de santé sont déjà sur des ordinateurs, mais pour savoir où elles sont exactement...
Je crois qu'elles sont transmises via Internet.
Comment ça, c'est sur le web ?
Non, attendez, il y a quand même une différence entre Internet et le web, non ? Internet, c'est un système de réseaux informatiques qui sont reliés entre eux. Puis je crois que c'est de là que vient son nom, c'est la contraction d'Interconnected Network, réseau interconnecté en anglais. Donc en fait... c'est la structure qui permet d'envoyer des paquets d'informations d'un ordinateur à un autre.
Avec Internet, tu peux utiliser différentes applications comme Mail ou le système pair à pair pour le partage de fichiers. Et justement, l'une de ces applications, c'est le World Wide Web, qui te permet de consulter des pages sur des sites grâce à des navigateurs.
Ah ok, d'accord, merci pour l'explication, c'est grave clair. Donc du coup, même si on ne voit pas ces données, elles existent quand même. En vrai, la première chose qui me vient en tête, c'est la matérialité. Mais c'est assez flou pour moi d'associer la matérialité au numérique.
Il faudrait s'y pencher.
Bienvenue dans cet épisode de la saison 2 du podcast Révolution numérique avec Juliana, Mounir, Clément, Clara et moi-même, Pauline.
Dans cet épisode, on se demandera dans quelle mesure Internet se matérialise dans nos quotidiens et à travers qui ou quoi.
Cher auditeur, chère auditrice, on te propose de nous accompagner dans notre enquête à la recherche de la matérialité d'Internet.
Donc, de ce que j'ai compris, en fait, nos données de santé au sein du vaste Internet utilisent des supports physiques. Mais un des avantages du numérique, c'est bien la dématérialité, non ? Je suis un peu perdue.
Mais ouais, t'as raison, Mounir. Le premier synonyme du numérique et d'Internet qui nous vient, c'est bien la dématérialisation. Pour le dictionnaire Le Petit Robert, la matérialité, c'est ce qui a un caractère matériel.
Ça se voit que t'as Sciences Po, Captain Obvious.
Et la matérialité, c'est aussi ce qui est vérifiable. D'ailleurs, tu peux te rendre compte de la matérialité d'Internet dans plein d'objets que tu utilises tous les jours.
Raconte-nous la fin, comment ça s'est passé après la vaccination, Clément ?
Alors, très clairement, j'étais au bout de ma vie, j'ai eu des courbatures pendant 100 ans. Bref, heureusement que le médecin m'avait prescrit du paracétamol.
T'as pu récupérer du Doliprane à la pharmacie, du coup ?
Oui, je suis allé chez mon pharmacien avec une ordonnance et ma carte vitale. Il y avait toutes les infos dessus et j'ai pas eu à avancer les frais pour les médicaments.
Attends, donc dans ce cas, la carte vitale, ça ne ferait pas partie des objets du quotidien qui matérialisent nos données ?
Ah oui, bien vu.
Ah d'ailleurs, j'ai une tante qui est pharmacienne et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle utilisait un logiciel spécial qui affiche les informations des patients sur l'ordi avec une sorte d'historique pour éviter les erreurs de prescription et de dosage par exemple. Et une partie des données du logiciel est ensuite transmise à l'assurance maladie qui va ensuite payer directement les professionnels et rembourser les patients.
C'est pour ça que ça a été une révolution en France. Plus besoin de s'embêter avec des feuilles de soins. Ça a permis une meilleure prise en charge par la Sécu. Bon, ils ont l'air a priori de respecter le secret médical.
Oh, regardez, mon père vient de me partager l'extrait d'un reportage, ça peut nous intéresser.
Les Français devraient être très en colère. Personne ne veut que les informations sensibles sur son état de santé ou sur son état psychologique puissent être achetées par n'importe qui.
Vous n'allez pas le croire, votre carte vitale est peut-être un mouchard. Quoi ? La moitié des pharmacies transmettent vos données de santé à une entreprise américaine de collecte de données. Et ça a été autorisé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ?
Elle autorise les pharmaciens à collecter les données suivantes. Le numéro de sécurité sociale, l'année de naissance, le prénom, le sexe, ainsi que les données dites de délivrance, c'est-à-dire tous les médicaments achetés, pour les transmettre à une société américaine, IQVIA, un nom inconnu en France. Et pourtant, c'est le plus gros data broker de données médicales au monde.
Mais c'est scandaleux. Quand ça se fait qu'on soit pas au courant ? C'est grave problématique pour le secret médical.
C'est super inquiétant. Mais c'est quoi un data broker déjà ? Comment les données sont transmises ?
Alors comme je suis hyper pro, je me suis renseignée et j'ai lu qu'on peut traduire data broker par courtier de données. Donc je t'épargne les détails relous. En gros, c'est une entreprise spécialisée dans la collecte de données personnelles qui viennent de sources publiques mais aussi privées afin de les revendre à des tiers.
Le journaliste nous explique d'ailleurs que le logiciel utilisé par les pharmaciens a été offert gratuitement par ce courtier de données, IQVIA, en échange de la transmission des données de ses patients.
En gros, si je comprends bien, la matérialité des données à la pharmacie, elle se concrétise par la carte vitale du patient, l'ordi du pharmacien et par le logiciel fourni par le courtier en données. Mais ensuite...
Il y a quelques mois, j'ai vu aux infos qu'il y avait eu un incendie chez l'entreprise OVH et que ça a eu un impact sur plein de sites internet, même celui du gouvernement. Mais j'ai pas trop compris. OVH, c'est pas un serveur spécialisé dans le cloud ? Non mais, comment un nuage plein de données pourrait-il prendre feu ?
Alors en fait, ces données, il faut bien les stocker quelque part. Cet endroit, c'est du coup un data center. C'est un lieu qui regroupe les équipements du système d'information d'une ou plusieurs entreprises. En gros, un immense entrepôt avec plein d'ordi tout plat et un système de refroidissement hyper efficace pour éviter que ça prenne feu, justement.
Et à ce propos, le sociologue Dominique Boulier explique justement que, début de citation, « Tout ne circule pas en tout point sur Internet par la seule vertu des prouesses logicielles, déterritorialisées, partagées et incontrôlables. » Fin de citation. T'as compris, il y a donc plusieurs formes incontournables de la matérialité des réseaux.
Donc ces données, en fait, t'as l'impression qu'elles volent, mais les points d'arrivée, les data centers, et les moyens de locomotion, comme les câbles sous-marins ou les satellites, eux, ils sont bien matériels. Tu t'en rends compte d'ailleurs dans le docu « Data Center, the hidden face of the web ».
En fait, tout ça, c'est une grosse partie de ce qu'on appelle la matérialité d'Internet ou des réseaux, comme le dit Dominique Boulier. Il existe toujours quelque chose de matériel derrière quelque chose d'abstrait. Un peu comme dans la chanson « Material Girl » de Madonna, qui parle du monde matériel.
Et du coup, ces data centers, ils hébergent aussi tes données de santé.
Ok, ok. Donc, par exemple, quand j'ai pris mon rendez-vous la dernière fois pour me faire vacciner sur Doctolib, les données que j'ai transmises ont atterri dans un data center.
Exact. Doctolib fait appel à des prestataires de services data center comme Amazon Web Services, par exemple, avec qui ils ont signé un partenariat pour qu'ils hébergent une partie de leurs données.
Attends, mais c'est pas les data centers de Doctolib directement ? Chaque entreprise n'a pas ses propres sites d'hébergement de données ?
Eh ben non, justement, c'est d'autres entreprises qui s'en occupent pour que ça soit plus simple. Enfin, c'est censé l'être, mais finalement, c'est pas complètement sécurisé puisque les données dépendent de la législation imposée à Amazon.
Ouais, c'est ça. Et puisque Amazon est une entreprise américaine, ben du coup, elle est soumise à la législation américaine. Captain Obvious is back. Et il y a un projet de loi dans cette législation qui pose un peu problème, c'est le Cloud Act. Il est en vigueur depuis 2018 et il permet aux agences gouvernementales américaines d'obtenir la saisie légale de toutes les données localisées dans les data centers appartenant à des entreprises américaines, même si les data centers sont situés à l'étranger.
Exactement, c'est le principe de l'extraterritorialité juridique. Du coup, légalement, certaines de tes données confiées à Doctolib peuvent être récupérées par le gouvernement américain. En réponse à ça, bien sûr, des assos de professionnels de santé et des syndicats se sont indignés, mais le Conseil d'État a quand même autorisé le partenariat lié à la vaccination entre le gouvernement et Doctolib.
Ouais, parce que le Conseil d'État a affirmé que les données liées au Covid-19 sont assez protégées. Apparemment, les mécanismes de sécurisation seraient suffisants pour éviter que les autorités américaines n'accèdent à certaines infos, comme les données liées aux motifs médicaux d'éligibilité à la vaccination, par exemple.
Par contre, Interhop, l'une des assos à l'origine de la procédure, regrette cette décision car elle aurait été prise en oubliant de nombreux détails techniques. Elle affirme que, au sein de l'Observer, les données sont à un moment accessibles en clair et qu'ainsi la donnée de santé n'est pas chiffrée sur tout son parcours. En attendant, Amazon reste le prestataire de services de data center de Doctolib, donc affaire à suivre.
Donc en résumé, Internet, c'est pas du tout un truc abstrait et dématérialisé, ça a une réalité concrète qui est ancrée dans ces infrastructures.
C'est exactement ça. Mais après, l'ancrage, c'est pas seulement un ancrage dans des objets et dans des infrastructures, c'est aussi un ancrage dans des personnes.
Comment ça, Internet, c'est des personnes aussi ?
Eh oui, Jamy. Derrière toutes ces infrastructures inanimées, il y a aussi des agencements humains pour permettre à toutes ces machines d'être fabriquées et de remplir leurs fonctions.
Bah oui, c'est logique. Il y a encore besoin d'êtres humains pour que tout ça puisse tourner. Et puis, bah heureusement.
Exactement.
Ouais, mais du coup, on a des travaux scientifiques à ce sujet ?
Justement, pas tellement en fait. Les seules sources que j'ai trouvées en cherchant n'ont pas vraiment à voir directement avec Internet. Mais ça aussi, c'est intéressant au final, le fait qu'on trouve pas grand-chose sur ce sujet.
Non mais attendez, du coup, comme tout est accessible et fonctionne par des humains, qu'en est-il du secret médical ?
C'est vrai, on peut se demander si le secret médical existe encore à l'heure d'Internet, surtout vu tout ce qu'on a dit avant avec les piratages de centres de stockage de données. Mais on est sûr qu'on n'a pas des travaux scientifiques sur le sujet ?
En fait, il y en a, mais ils concernent plutôt les ouvriers et les petites mains d'Internet.
Quand tu fais un test Covid en pharmacie ou dans un labo, par exemple, tu peux recevoir tes résultats immédiatement imprimés au format papier, ou bien recevoir un mail ou un SMS, pour ensuite aller les récupérer sur le fameux portail SIDEP, donc sous format numérique.
SIDEP, en gros, c'est le Système d'information nationale de suivi du dépistage Covid-19. C'est un outil numérique qui réunit les résultats de l'ensemble des tests faits par les labos et les pharmacies en France. Comme on l'a vu juste avant, ces données sont stockées matériellement dans des data centers. Mais il faut bien que quelqu'un les saisisse dans un premier temps. Et ça, c'est le job du personnel de santé.
Ah ouais, ça me fait penser que quand je suis allé faire mon test la dernière fois, on m'a demandé mon nom, ma date de naissance, mon téléphone, mon adresse. C'est pour ça, du coup.
Et ouais, toutes ces infos perso permettent d'identifier l'ensemble des personnes qui font des tests et grâce au SIDEP, de suivre les patients positifs et leurs contacts.
Mais le personnel doit saisir d'autres données encore. Yel rentre des codes et des numéros concernant le prélèvement du test et son origine. Puis dans un troisième temps, il faut aussi digitaliser le résultat du test.
Donc je suppose logiquement que ce personnel de santé a été formé à ces outils numériques. Parce que c'est quand même de nos données dont il est question. Il ne faudrait pas qu'il ou elle fasse une mauvaise manip.
L'enjeu que tu soulèves là, c'est le digital literacy, qu'on peut traduire par alphabétisation numérique. Ce concept a été inventé par Paul Gilster en 1997 et il l'a défini comme la capacité à la fois à comprendre et à utiliser l'information numérisée.
On peut comprendre ça de différentes façons. En fait, le numérique, c'est un peu comme une langue. Il faut d'abord apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire, dans le cas du numérique, à se familiariser avec des symboles, comme l'arobase par exemple. Puis ensuite vient la question technologique, mais aussi la maîtrise de l'informatique, donc des ordinateurs et des autres outils. Ou le traitement de l'information, où est-ce qu'on la trouve, comment on l'évalue, comment on l'utilise, comment on la partage.
Sinon, pour revenir à ta question, Mounir, des guides et des tutos imagés ont été fournis au personnel chargé de la saisie des données. Par exemple, donc les médecins, les infirmiers, les infirmières, et puis aussi tous ceux qui travaillent dans la pharmacie. Après, savoir s'ils ont été compris, ça c'est une autre question.
Je crois qu'un service d'assistance a aussi été mis en place par le gouvernement. Et du coup, on a d'autres humains qui entrent en jeu dans la matérialité du web, ceux qui s'occupent de la mise en place du numérique techniquement parlant.
Tu veux dire le personnel des data centers, par exemple ?
Ouais, c'est ça. Il faut bien que quelqu'un les mette en route, ces serveurs. C'est une image, bien sûr, mais il y a bien des travailleurs dédiés au bon fonctionnement des systèmes informatiques et de l'environnement virtuel.
D'autres ingénieurs doivent s'occuper des données en créant des sortes de pipelines qui rassemblent les informations des différents systèmes sources. Certains employés doivent même s'occuper du nettoyage des données afin de les préparer pour les analystes et les scientifiques.
Sans oublier les nombreux agents de sécurité qui surveillent les accès et les vidéosurveillances. Les data centers sont hautement surveillés aussi bien virtuellement que physiquement. Seules les personnes autorisées sont habilitées à pénétrer au cœur des data centers.
Et puis si on pousse ce raisonnement encore un peu plus loin, je pense même qu'on pourrait considérer les personnes qui définissent les droits et l'accès aux données comme une autre incarnation de la matérialité du web.
Attends, donc, tu veux dire que la matérialité du web, c'est politique ?
Mais oui, et c'est sûrement pour ça qu'on n'est pas vraiment au courant de toutes ces choses en vrai, parce que ça soulève plein d'enjeux environnementaux, avec toute la consommation d'énergie que demandent les data centers, économiques, avec l'utilisation de nos données par les géants du numérique pour nous faire acheter plus, géopolitiques, puisque les câbles se situent matériellement dans des pays.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Pour aller plus loin, on te conseille l'écoute de l'épisode « L'infrastructure invisible du web » du podcast « L'invisible » de France Inter, qui traite notamment de l'enjeu géopolitique des câbles sous-marins du net.
Pour résumer, la matérialité d'Internet, incluant celle du web, elle se concrétise d'abord à travers les supports physiques. Dans ces derniers, on trouve les infrastructures logicielles et physiques, comme les fichiers numériques. Ça, c'est le software, l'aspect logiciel. Mais on trouve aussi les supports physiques, comme les disques durs, les serveurs informatiques ou les câbles de connexion. Et ça, c'est le hardware, le matériel informatique.
Et aussi, Internet se matérialise par les individus qui manipulent ces données et les usagers. Les patients, les secrétaires médicaux, les laborantins, les médecins ou encore les administrateurs des data centers. En résumé, c'est la matérialisation d'Internet par l'interaction et l'usage.
Dans cet épisode, la question de l'alphabétisation numérique tourne autour des personnels de santé, mais en fait, elle touche d'autres parties de la population, et notamment les usagers ordinaires.
Afin de continuer la réflexion, l'épisode suivant traitera notamment des fractures générationnelles provoquées par cette inégale alphabétisation numérique. À bientôt dans
Révolution numérique.